Oui, yala. Boker Tov, Shavua Tov, Beshem Hashem, Naase, Ve Natsliach, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Avec aujourd'hui, donc le dimanche 5 du mois de mai. 5 mai, c'est pas quelque chose en France le 5 mai? Il y a 8 mai, c'est ça, 1er mai, 8 mai. Ok, et on est le 27 du mois de Nissan. Encore quelques jours avant le compte à rebours de passer entre mercredi et jeudi au mois de Iyar. Donc la Géoula est encore possible, mi Yodéa. Nous avons un shiur à thème aujourd'hui qui nous a été demandé sur toutes les formes de vol dans la vie et de tous les jours ainsi que leurs conséquences. Shiur acheté par Yohan Shimon, Bezrat Hashem, pour le plaisir de nos oreilles et en même temps les connaissances que l'on se doit d'avoir sur la gravité de voler. Parce qu'il existe effectivement plusieurs paliers de vol dans le judaïsme. Et l'un d'entre eux dans les 10 commandements, c'est « Tu ne voleras pas », qui n'a rien à voir avec le fait de voler la propriété d'autrui. « Tu ne voleras pas », on parle de prendre une personne et de le vendre. Par contre, dans cette paracha de la semaine de Harimot Kedoshim, là-bas, il y a marqué « L'otignez-vous », »,« Vous ne volerez pas ». Et là, on parle réellement du vol, qui est un interdit formel de la Torah. Bien sûr, nous sommes ce soir aussi Yom HaShoah, donc on n'oublie pas toutes ces victimes qui sont mortes de Kiddush Hashem uniquement parce qu'elles sont nées juives, qu'elles n'ont fait mal à personne. Personne n'a trouvé jusqu'à aujourd'hui de raison, de preuve, si ce n'est qu'une propagande extrêmement violente de « les juifs sont partout, les juifs, les juifs, les juifs », faisant monter très facilement une mayonnaise pour tout celui qui voulait l'entendre. Ça a provoqué simplement un pogrom de plus de 6 millions de juifs ou de 1300, entre 1300 et 1400 personnes parties et décimées en une seule journée du 7 octobre. Shachem ikom damam. On pensera à tous nos blessés, kol ha'psouim be'ezrat Hashem chayalenu ve'otanu, et surtout tous nos otages qui reviennent en bonne santé à la maison. On remerciera Yohan Simon d'avoir acheté ce shiur. Toda Rabba pour ceux qui peuvent acheter des shiurim, cela nous aide grandement. Et en même temps, vous avez un shiur pour l'éternité qui vous appartient. À partir du moment où il y a votre nom, il est à vous. Voilà. Donc toute forme de vol, je vous ai noté quelques petits détails. La première d'entre elles, c'est la différence en hébreu. Vous savez que l'hébreu est très important au niveau de ses étymologies, car sans expliquer le pourquoi des choses, on peut comprendre de quoi il s'agit. Par exemple, la phrase hébraïque, il est sur le point de partir, ou il risquerait de partir. Est-ce que c'est dit de façon péjorative ou de façon positive? Cela va dépendre de la formulation utilisée. Si je dis « ou amour la lechet », c'est une bonne chose, c'est-à-dire de façon positive. Ou amour la lechet, il est sur le point de partir, il va partir, c'est positif. Le mot amour est positif, c'est de l'hébreu, c'est pas du français. Et ou aloul la lechet, ça veut dire viens vite parce qu'il va partir. On dit pas ou amour la lechet, on dit ou aloul la lechet. Et donc ça va changer les choses. En hébreu, le mot voleur ou vol se dit de deux façons. Plusieurs façons émettre. On dit lignov, donc ganav. Ou l'ixol, gazlan. Vous voyez déjà, c'est très différent. Et donc, ces deux termes, ces deux façons d'exprimer le vol ont une signification identitaire, étymologiquement parlant, sur la façon d'agir. Est-ce que, par exemple, dans ce que je veux faire, je suis un voleur ou un voleur? En français, ça va pas très loin. En hébreu, c'est gazlan ou ganav. Madin sheli. Au sage de nous apprendre, donc, maou ganav. Gneva belo yediat abealim. Quand on dit qu'il a volé le cœur d'une personne, il a volé le cœur d'une personne, on ne dit pas ou gazal lo et alev, il a ou ganav et libi. Où est-ce qu'on a vu ça d'ailleurs? Où une personne se plaint de l'autre en lui disant tu m'as volé mon cœur, tu m'as trompé, tu as pris ma confiance. C'est la vanne face à Yaakov. Gadnafta et libi, tu as volé mon cœur. Il lui a pas dit à gazalta. Par contre, le gazel, donc, les lo yedia, quand je fais ça de façon sans la connaissance des propriétaires, ça s'appelle ganav. C'est-à-dire, ce qui fait que quand quelqu'un rentre dans l'appartement la nuit, dans un appartement alors que les propriétaires sont en vacances, c'est un gazlan ou un ganav? C'est un ganav. C'est-à-dire, par contre, le gazlan, lui, bekoar beyidia tabealim. C'est maintenant, comme ça se passe de plus en plus, les gens rentrent dans les voitures, cassent les vitres ou autres et volent les montres. Comme ils ne sont pas capables d'aller travailler honnêtement, donc il faut bien qu'ils volent ceux qui travaillent. Donc automatiquement, sans tenir compte des dégâts qu'ils occasionnent et autres. Et bien dans ce cas-là, on ne dit pas c'est un ganav. Gazlan, lama. Gazlan veut dire, dans la totale connaissance de celui qui se fait prendre, Mamash, et en plus de ça, Bekoach. Ce qui fait qu'une agression pour un vol, voler une mallette, voler une montre, voler quelque chose, dans la connaissance de celui qui le fait, on appelle ça un gazlan, et non pas un ganav. C'est juste comme ça qu'au niveau de l'hébreu, on sache aussi utiliser, par exemple, tu arrêtes un voyou qui t'a pris ta montre, tu dis pas, t'as trop et t'as ganav. T'as gazlan ou gazlan. Je ne sais pas si les flics le comprendront, mais en tout cas en hébreu, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on...
C'est plus méchant que ganav.
Les deux sont méchants et les deux sont des réchaïm. Mais tu as raison sur un point. La Gemara relève une nekuda, Daniel, qui est très importante. Qui est le plus grave, le gazlan ou le ganav? Pourquoi?
Parce que c'est
l'achève. Tout à fait. C'est-à-dire que la différence... c'est qu'il a peur de l'homme, il n'a pas peur que Dieu le voie. Donc le ganav, c'est sans la yédia des Béalim, mais il oublie qu'il y a une caméra qui s'appelle les yeux de Dieu, Aïn Roa, Ozen Shoma, de Chol Maasecha, Beseper Nikhtavim. Et donc, comme l'a enseigné Rabbi Yochanan Ben Zakkai, que la peur que tu aies pour les hommes soit du même niveau que celle que tu pourrais donner à Dieu. On a plus peur des flics que de Dieu lui-même. On a plus peur, par exemple, vous voyez le mec qui regarde un film... il y a une figurine interdite, sa femme rentre, hop, il change de chaîne. Mais avant que ta femme ne rentre, Dieu, tu sais pas qui te voit en train de faire ça? C'est-à-dire que tu as plus peur de ta femme que de Dieu? Non, le mec, il m'a répondu, non, mais avec ma femme, c'est la guerre. Avec Dieu, c'est bon, allez, pardon. Zelonachon. Rehen, effectivement, le gaznav est plus grave que le gazlan. Le gazlan, au moins, il a l'honnêteté de faire les choses en face. Dans sa malhonnêteté, il y a quand même un point... d'honnêteté. Dans le livre de Vaïkra, chapitre 19, il y a marqué là-bas de façon différente, Lo ta shok et re'echa velo tigzol. Tu ne profiteras pas, tu ne prendras pas, tu ne posséderas pas ce qui ne t'appartient pas. Sur le domaine philosophique de la Torah, il y a quelque chose de très important à retenir, c'est que le fait de voler autrui, c'est d'une certaine façon estimer que Dieu n'est pas justice. C'est pourquoi lui, il a et moi, j'ai pas. Donc, remettre en question le jugement de Dieu t'incitera automatiquement à voler. C'est-à-dire, t'as un portable, dernier cri, je vais te le prendre. Attends, si tu as ce portable et que tu l'as acheté, c'est que dans la providence divine, que Dieu t'a donné les moyens de l'acheter honnêtement, bien sûr. Donc, c'est que c'est à toi. Tu as un tikkun avec ce portable. Le fait que je me l'approprie, ça ne fait pas partie du décret de Rosh Hashanah où Dieu a décidé de ce que j'aurai dans l'année pour moi. Donc je remets en question tout le jugement. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais fracasser en même temps toutes les bonnes choses qui avaient été décrétées pour moi. Ce qui fait que, sachez que les voleurs sont des gens qui prennent un marteau et qui brisent constamment leur mazal. Deuxième chose à retenir, c'est que il faut arrêter de dire quand on vole « Baruch Hashem, j'ai réussi ». Il faut arrêter avec cette phrase. Tu peux dire « Baruch Satan » de dire ça. « Merci les forces du mal de m'avoir aidé ». Mais aucunement, comme tous ces abrutis ignorants qui se permettent de mettre des kippotes et qui te disent « Waouh, Baruch Hashem, quoi, si j'ai arnaqué, c'est pas de Dieu, ça ?» D'abord, il y a deux choses que tu dois retenir. Tout comme Dieu marie, le Satan aussi marie. Quand tu as un Cohen qui veut se marier avec une divorcée, c'est pas un mariage de Dieu. Hein? Quand tu fais un mariage mixte, c'est pas un mariage de Dieu. C'est pas la peine de faire des films en disant « C'est pas un signe de Dieu, ça, j'ai rencontré au Kotel. » Il n'y a pas de rapport. Le Satan aussi fait des très belles rencontres. Magnifique. Le Satan aussi peut te donner une très grande réussite si tu ouvres le Shabbat. Mais alors, une explosion financière. Pourquoi? C'est parce que si tu es dans le mal et qu'il n'y a rien qui réussit, personne n'ira. Il faut bien qu'il y ait un libre arbitre. Zé Léoumadze à sa Hachem. Comme dit dans Kohelet, dès qu'il y a une lumière très blanche, il y a automatiquement une lumière très sombre. Donc, juste une chose pour ceux qui continuent leurs arnaques à deux balles, qu'ils arrêtent de mêler Dieu à leur réussite. Dieu n'y est surtout pas parce que Dieu déteste les voleurs. Non seulement il les déteste, mais on va voir quelque chose dans le Zohar Kadosh qui fait peur à propos de ça. Donc ne crois pas que c'est en te faisant des dons à une yeshiva que tu vas acheter ta conscience. Arrête avec ça. Ken?
Qu'est-ce qu'on appelle la fraude?
Ça, c'est encore un autre sujet. Et il n'y a pas plus voleur au monde que les gouvernements. Il n'y a pas plus voleur. Par exemple, dans notre pays, que Dieu bénisse notre peuple, le gouvernement israélien a estimé, vous pouvez vérifier ce que je vous dis sur Internet, que si tu as les moyens de t'acheter une voiture, tu m'en dois une. Voilà, tu payes pratiquement 100% de taxes. C'est-à-dire, on rentre dans de la débilité, c'est du pur vol au col blanc. Et eux recherchent Et on recherche ceux qui font du blanchiment, alors qu'ils en font tous, toute la journée, dans tous les pays du monde entier. C'est vraiment le dromadaire qui se moque du chameau. On est face à une situation où, j'avais posé la question à l'époque à mon rave, et qui m'a dit, le voleur volait. Parce que si on devait payer honnêtement tout ce que l'on a à payer, on n'aurait plus de quoi vivre. Et c'est pareil en France, c'est pareil aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on rentre dans une espèce de folie. Là, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais j'ai entendu une rumeur. Je crois que c'est faux, ça doit être une blague, à mon avis, du Mopecho ou des guignolos, des guignols de l'info, que Macron aurait demandé à tous les Français de payer 500 euros pour l'Ukraine. Je pense que ça doit être une blague. Hein? Bon, enfin, c'était quand même sur I24. Hein. Ils n'ont pas de blague là-bas, en général. Je connais le directeur, un merveilleux monsieur, mais je ne pense pas que c'était une blague. Mais pour vous dire combien, ils estiment que si taxe l'Arnona, taxe ceci, taxe cela, taxe... D'accord, mais pourquoi est-ce que vous voulez payer, Bichlal, ces taxes? Très souvent, on entend que c'est le ministre des Finances qui a été emmené pour fraude. Donc c'est quand même vachement curieux que eux-mêmes n'arrivent pas à tenir dans leurs engagements, comme de rouler à 30 km/h à Paris, c'est-à-dire tout le monde roule à 30, sauf les flics. C'est quand même vachement curieux. Tu n'as pas le droit de stationner là où c'est interdit, mais les flics, ils ont le droit. C'est-à-dire que, en fin de compte, fais ce que je te dis, et face à la dictature de la démocratie, moi, je fais ce que je veux. Bon, c'est un sujet pour lui-même, mais hors caméra, ce sera mieux. Moi, j'ai pas grand-chose à déclarer, donc ça va. Hein? Bah, tu sais, je te dis une chose. Il y a un moment où en France, par exemple, qui est un pays que j'aime beaucoup personnellement, parce que c'est un des plus beaux pays au monde, hein, la France. Faut reconnaître que c'est un pays merveilleux, qui offre beaucoup d'avantages, qui a beaucoup de chesed. Mais moi, j'ai connu l'époque où tu pouvais te garer 2 minutes sur le trottoir devant les flics et qui te disaient « je vous donne 2 minutes le temps que tu as acheté une baguette ». Il n'y avait pas tous ces pics. Il y avait une espèce de shoot à foot. Ils permettaient, les yeux fermés un peu, de faire un peu de noir parce que ils savaient que cet argent était récupéré par les achats que tu allais faire ou récupérer la TVA. C'était une époque où tout le monde aimait vivre, les années 80, parce que tout le monde savait tout le monde. On faisait semblant de ne pas voir, mais en réalité, c'était l'effervescent, c'était florissant. Il y avait beaucoup d'argent. Les gens étaient souriants. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, tu vois les tronches, tu comprends la situation. Voilà. Je pense que c'est pareil dans tous les pays. Il n'y a qu'aux États-Unis. Tu dois déclarer le noir que tu fais. C'est fou, hein? Aux États-Unis, tu as droit jusqu'à 10% de noir. C'est-à-dire, vous savez ça? Non, mais ce n'est pas une blague. C'est pas une blague. Aux États-Unis, le blanchiment d'argent est permis jusqu'à 10%. Je me rappelle qu'une fois, j'avais un chèque pour la yeshiva. Il m'a dit, donne-moi, c'est un chèque important. Il m'a dit, oh, c'est bon, je n'ai pas dépassé mes 10%. C'est-à-dire que tu as le droit de rester avec une somme qui correspond à ton capital de 10% non justifié. Et tu dis directement aux impôts, oui, c'est du black. Ok, vous n'avez pas espacé 10%. Mais ils sont très intelligents, parce que ça relance les économies. Parce que tu permets d'avoir de l'argent, tu permets de pouvoir payer des choses sans justificatif, ce qui est parfait. Aujourd'hui, en France, tu vas à la banque de ton argent à toi. C'est ton argent que tu as gagné à la sueur de ton front, que l'État va te prendre la moitié. Tu dis, je voudrais 2000 euros, ils te disent, pourquoi faire? Donnez-moi un justificatif. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire, c'est tellement débile que c'est même pas un sujet de discussion. Ça aussi, c'est du vol. Ça aussi, c'est du vol. C'est-à-dire que je te prends ton argent qui a déjà été surtaxé, et quand tu veux le récupérer alors que je prends des intérêts de te garder ton argent, ouais, eh bien, je veux que tu me dises pourquoi tu vas le dépenser. Réponse, j'ai pas de papier toilette, je fais ce que je veux. Je veux récupérer mon argent. Vous êtes quelqu'un derrière la banque, vous prenez de l'argent sur ce que je vous laisse. Ouais, c'est quand même fou ça. D'accord ? Tu as remarqué que quand tu mets de l'argent, tu n'as pas beaucoup d'intérêt, pratiquement pas, mais si tu as un découvert, tu as beaucoup d'intérêt. Donc vous gavez. Il n'y a pas plus voleur au monde que les banques, tout le monde le sait. Même eux-mêmes, les banquiers ne mettent pas leur argent à la banque, enfin, c'est encore un autre sujet. Mais pour vous dire à quel point, quand on parle de dimension de vol, c'est extrêmement grave. Alors dans le judaïsme, par contre, ça bifurque un peu quand même, et on va voir de quoi est-ce que l'on parle. Asur minatora lignov o ligzol afilu pachot mishave pruta. Et là, c'est déjà un chidouche. Puisque chez nous, la mesure minimale, c'est chavé pruta, c'est-à-dire la pièce minimale qui te permet d'acheter la plus petite chose. Qu'est-ce qui te coûterait le moins cher? Je ne sais pas, moi. Oh, non, il y avait un centime. C'est indigne de l'eau chavé pruta. Tu ne peux rien acheter avec un centime. Non, on est bien d'accord. 2 centimes, tu ne peux rien acheter non plus. Donc, il y a digne de l'eau chavé pruta. C'est-à-dire que pruta signifie minimum d'achat. avec 2 centimes européens, tu ne peux rien acheter. Il n'y a aucune chose qui se vend, moi, que vous avez peut-être un petit touche à me donner. Mais en tout cas, l'okayam. Et puis, moi, chez Niodéa, 1 centime, c'est sûr qu'il n'y a pas. On est bien d'accord? De voler 1 centime avec lequel tu ne peux rien acheter, en ce qui concerne le vol, tu es appelé voleur. Même si il n'y a pas Chavé Prouta, tu es quand même appelé voleur. C'est quand même incroyable. D'accord? Tu peux penser que la personne va voler 1 euro. 1 euro, tu peux acheter un bonbon. OK? Donc, tu vas dire, avec ça, il a pu acheter quelque chose. Mais même ta pièce qui est volée, si elle ne te sert à rien, tu es appelé voleur et tu devras revenir la rendre. À un tel point qu'on a beaucoup de récits de tzadikim et de talmidei chachamim qui couraient derrière des gens pour leur rendre une pièce qu'ils avaient oubliée chez eux, de peur d'être accusés de voleur. Faut savoir qu'à l'époque, il y a encore 3 siècles en arrière, pour la moindre pièce volée, les gens prenaient jusqu'à 10 ans de prison. À l'époque de Victor Hugo, par exemple. Gavroche, la Révolution, les voleurs étaient considérés comme des criminels et les punitions étaient extrêmement violentes. Ça pouvait être 10 ans de bagne pour avoir volé une baguette, par exemple. C'est des choses effroyables. Mais il est important, effectivement, de faire peur quand il s'agit de vol. Donc, en ce qui concerne les impôts et ainsi de suite, oui, on doit payer nos impôts, surtout en Israël, parce que c'est un État qui a besoin, avec tout ce qui se passe, les problèmes de sécurité, les problèmes de. Par contre, est-ce que c'est bien dispatché? Moi, je ne suis pas d'accord. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Ben Gadol ou Ben Katan, que ce soit grand ou petit, il est interdit de voler. Afilou derer srok. Et le chidouche qu'on va apprendre, c'est que même pour plaisanter, Daniel, c'est ma fria, même pour plaisanter, il est interdit de voler. Pour plaisanter. Afilou almenat l'arzir. Donc, on va prendre un exemple très connu. Des pathétiques personnes qui, au restaurant ou avec des amis, prend la fourchette de l'autre, il la cache. Et l'autre, il dit, oh, bizarre, mais j'avais pas ma fourchette. Et lui, à peu près 4 ans d'âge, c'est ce que je donne au niveau psychologique. Et dès qu'il se retourne, il remet la fourchette. Et l'autre, il dit, oh, ben, elle est revenue, petit lapin qui sort du chapeau. Eh bien, il faut savoir que c'est une grave avéra. Ça s'appelle Gezeldat. Tu viens de voler la pensée d'une personne. Ne t'étonne pas. Dans ce cas-là, qu'un jour prochain, tu viens pour chercher ta voiture dans une rue et tu ne la trouves pas. Tu ne te rappelles plus dans quelle rue elle était. Et les anges qui ont été créés par ta bêtise d'avoir volé le da d'une personne, c'est-à-dire la pensée d'une personne, reviennent. Tout le mal que tu fais, c'est toujours une balle qui retombera tôt ou tard sur terre, sur ta tête. Résultat des courses, un jour, tu ne vas pas retrouver quelque chose. Non mais attends, je perds la tête. Où est-ce que je l'ai mis? Elle était juste dans la rue derrière. Elle était juste dans la rue derrière. Seulement toi, tu t'en es pas rappelé. Quel est mon tikkun? Pourquoi? Apparemment, quand tu étais jeune, tu as fait quelque chose dans ce genre. C'est bien. La reine Almenat l'arzir, même si maintenant, tu sais que tu vas prendre 50 shekels, tu vas prendre 50 euros. La personne, les propriétaires de ces 50 euros ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils vont venir d'ici 2 heures. Toi, tu as besoin pendant 10 minutes de ces 50 euros. Tu les prends de la caisse. Tu vas les rendre avant qu'ils reviennent. Ça s'appelle gazelle. Tu es obligé d'avoir l'autorisation avant de les prendre. Ça va, j'ai rien fait de mal. Vous connaissez cette phrase. D'ailleurs, très, très, très sfarade. Ça va, je ne vous ai pas volé, voilà, j'ai rendu. Baba, c'est du vol, alpi alakha.
Emprunter sans autorisation, ça assure.
Mais vadaï que ça assure. Vadaï que ça assure.
Si j'emprunte des tefilines de quelqu'un.
Tu n'as pas le droit. C'est pour ça qu'il y a toujours des tefilines de la bête à Knesset ou d'appeler le propriétaire des tefilines et de lui demander. Est-ce que tu me permets de prendre tes tefilines? Mais stam de prendre des tefilines de quelqu'un en disant, écoute, mets cela, j'ai pas de tefilines. Ça s'appelle mitzvah ba'avera. Tu n'as absolument pas le droit de le faire. À moins qu'il y ait marqué sur la pochette la aretz umloa. À partir de ce moment-là où il y a le signe des initiales de la aretz umloa, donc lamed alef girshain, nachon, vav, ça veut dire que c'est moutar, ça veut dire que ça appartient à tout le monde. Mais dans le cas échéant, asso. C'est pareil pour les livres, c'est ce qu'on va étudier pour l'instant. Donc même si maintenant je vole la pensée de l'autre, c'est-à-dire, stam, je prends son stylo, il le cherche. C'est bizarre, j'étais sûr de l'avoir pris, mon portable, ils adorent, ouais, très comique. Ouais, comme par exemple aujourd'hui, j'entends dans les réseaux sociaux des choses qui me surprennent entre mari et femme. Oui, tu n'as pas regardé mon portable, tu me suis. Oui, je suis juste ton mari. Parce que si c'est un étranger, tu dis, t'es qui, toi, t'es pas mon mari. Et quand c'est ton mari, tu dis que tu regardes. Dans la Torah, une chose pareille est considérée comme étant extrêmement grave, car si tu mets ton code et que ton mari ou ta femme n'a pas de possibilité de voir ce qu'il y a dessus, c'est considéré comme étant « tu me voles ma confiance ». Faire très attention, contrairement à toutes ces personnes qui feraient mieux de réussir leur vie au lieu de dire aux autres comment réussir la leur, en disant « oui, moi j'ai ma vie privée, tu n'as pas... » Marie est femme, hein, je parle. La femme, elle dit à son mari « tu n'as pas regardé mon portable, je suis désolé, c'est mon portable, c'est privé. » Non, pas dans la Torah. Dans la Torah, ça peut être même une raison de divorcer. Tu as 2 secondes pour me donner ton code. Si tu ne me montres pas ce qu'il y a sur le portable, qu'est-ce qu'on faisait à l'époque du Beth Amikdash ? On l'emmenait chez le Kohen Gadol, on disait « il faut qu'elle boive de l'eau. Pourquoi ? » Pourquoi ? J'ai un doute sur elle. Surtout dans notre génération. Vous voyez que la Torah n'a rien à voir avec la pensée universelle. Dans la Torah, il n'y a aucun problème de dire « tiens, regarde, pourquoi tu as effacé ?» Je vais te dire pourquoi j'ai effacé. Il y a eu ça et ça et ça. Pourquoi ? Parce que le couple tient sur 3 éléments. 3 bases. 3 bases. 3 bases. Confiance. Confiance. Complicité et amour. Complicité, ça comprend tout. S'il n'y a pas la confiance, la complicité et l'amour, il n'y a pas de base du couple. C'est simplement, bon, ben, on couche ensemble, on mange ensemble, t'es le père de mes enfants, je suis, voilà, t'es la mère des enfants. C'est pas ça, un couple. Un couple, haine d'avoir casé. Ma femme n'a pas de code, j'ai pas de code, elle peut regarder, et si moi j'ai un code, elle le connaît. Et elle peut regarder ce qu'elle veut à tout moment quand elle veut. Parce que si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de confiance. À qui tu parles, à qui t'écris, mais dis-moi, attends, tu parles pas avec un copain, mais tu parles avec ton mari. Mazet va rimailer. C'est donc le mec, il est à 11h du soir, il écrit avec sa secrétaire, allez, bonne nuit. Qu'est-ce que tu regardes? J'écris à ma secrétaire pour le travail. Ah, ya Rabbi. Si seulement les gens pouvaient écouter la sagesse de la Torah et d'écouter la sagesse des autres, ce serait vachement plus agréable à vivre. Vous savez que le pire, c'est que nos parents n'ont pas connu ça, ça n'existait pas. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait les téléphones ou les touches. Jamais j'ai entendu ma mère ou mon père avec qui tu parlais. Cela ne te regarde pas. Rien d'avoir casé. Je suis en train avec le banquier, on a rendez-vous à 10h. Communication. Bon, après ça finit avec Rach, Boko, Bobo, Dele, Bolijabo, tout ce que tu veux, mais en tout cas, il communiquait. C'était mignon. Tov, l'onertam, à propos de la gravité, la Gemara nous dit, dans la Sefer Sanhedrin, entre autres, Rashi sur place, l'onertam gzardinam shel Dora Mabul est là. À la gazelle. Qu'est-ce qui a provoqué le déluge, la destruction du monde? Le vol. C'est une des averot, c'est un des péchés considérés comme étant des plus graves de toute la Torah. Il est presque au niveau de Zera Levatala, presque au niveau. C'est bien. Pourquoi Zera Levatala? Quel rapport avec le vol? Parce que Zera Levatala, c'est voler la vie d'un potentiel de semence qu'aurait pu devenir un homme, un humain. Et donc tu lui as volé. Ken? Pareil. Pareil, Sodome et Gomorre, c'est dans la liste. Effectivement, Sodome et Gomorre, Nidfessoual. Alors, Sodome et Gomorre, c'est un peu spécial, parce que là-bas, hein, moins de 30 grammes, c'était pas du vol. Donc, chacun volait, voilà, c'est pareil. En Kippour, Mechaper à la gazelle. Encore une des choses les plus graves qu'on pourrait imaginer, c'est que voilà, Kippour vient d'arriver. Adon, Aseli, Chod, j'ai jeûné toute la journée. Waouh, c'est fini. Tu n'es pas pardonné à Hamoudi tant que tu n'as pas remboursé l'oseille. Ainsi donc, Kippour, l'homme Mechaper à la gazelle. Et ça ne sert à rien de penser que tu es complètement nettoyé de tout. Une des inquiétudes qu'on doit tous avoir avant de partir de ce monde, à l'image de mon beau-frère, que Dieu repose son âme, Georges Eliaou Ben Simcha Alice, à la Vachalom, c'était qu'il n'a pas cessé de dire à ma sœur, n'oublie pas que je dois 70 euros à telle personne, n'oublie pas d'aller rembourser, n'oublie pas, Lama, parce qu'il savait au fond de lui que s'il ne revenait pas, il risquerait de se réincarner, de revenir rembourser 70 euros, pour mourir le lendemain parce qu'il aura fini son tikkun. Laisse-moi tranquille dans le Gan Eden. Ainsi donc, rembourse tes dettes avant de partir de ce monde.
Quelqu'un qui a volé à plusieurs personnes, il ne se rappelle plus à qui.
Alors pour ça, il y a des tikkunim. Je lève la main pour ne pas que ça tremble. Pour ça, il y a des tikkunim. S'il ne sait pas et ainsi de suite, il te devra d'avoir un moré ora, un rav qui lui dira dans ce cas-là, tu fais un don à un hôpital non juif, si tu as volé des non juifs, ou à une œuvre caritative qui n'a rien d'avoir avec l'idolâtrie. Dans ce cas-là, tu seras obligé de rembourser cet argent de là où ils vivent, dans le pays que t'as arnaqué, par exemple, pour le bien-être de sa nation à lui. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse en sorte que cette personne volée puisse récupérer Be'akifin cet argent-là. Mais pour ça, faut voir un moré ora'a, en disant, voilà, j'ai volé d'argent, je sais pas à qui j'ai volé, vous savez, c'est comme ça. Aujourd'hui, je vais faire tchouva, je vais arrêter mes bêtises. Dans ce cas-là, il va te donner un système de Yemina Ousmola. C'est-à-dire?
Si la somme est trop grande, c'est pas arrivé, il a
alors, Molichim était Adam, les filles de son notable. Moi, j'ai connu une personne qui avait volé beaucoup d'argent, et il a fait ça. Et Akadosh Baruch Hu lui a laissé, Il a fait une totale teshuva. D'ailleurs, il est même mort aveugle. Parce qu'il a marqué que l'argent rend aveugle. Tu te rappelles ? Kesef, Mesanver, Nechachamim. Il est décédé aveugle. Et je peux te dire que même avant de mourir, ce tzaddik, que Dieu repose son âme, est venu donner un cours au Kollel Or Eliyahu, en présence de mon rav et de tous les élèves. Il nous a laissé en larmes. C'est un homme qui avait fait tshuva, qui s'est rendu compte de ses erreurs. Et il a fait énormément de dons à la Torah, mais il a fait aussi beaucoup de dons aux associations non-juives pour réparer sa faute en pleurant, en demandant pardon à Dieu. Il a été, mort, il a été enterré à Jérusalem, mamash comme un tzaddik. Pourquoi ? Parce que si vraiment tu pleures, les larmes que tu as fait pleurer, les larmes que tu as fait pleurer, et que tu veux vraiment faire tshuva, Dieu il t'emmènera à réussir. Même si tu as pris des millions, tu pourras les rembourser. La justice de l'homme est stupide. Le mec, il vole 5 millions d'euros, il va faire 7 ans de prison. Mais ça ne rembourse pas les gens. Tu es en prison. Moi, je préfère que tu en libères. Va bosser et me rendre l'argent. Ça, c'est la Torah. La Torah, elle te dit, ça ne sert à rien de mettre un homme en prison. S'il a volé, il faut qu'il rembourse. Donc, il se vendra en esclave s'il le faut, c'est-à-dire en tant que serviteur, pour rembourser l'argent. C'est-à-dire, la Torah est très intelligente. Tu vois, un mec, on lui a volé 1 million d'euros. Il dit, ouais, maintenant, il est en prison. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, qui suis en prison ? Rends-moi mon 1 million d'euros. Et va en liberté. Donc, au lieu de coincer une personne entre 4 murs, libère-la pour qu'elle aille bosser, te rembourser ton argent. Ça, c'est l'esprit de la Torah. C'est pour ça que la prison n'existe pas chez nous. Les villes de refuge n'ont rien à voir avec la prison. Au contraire, c'est une ville éducative où seuls les Kohanim, les Lévim remplis de sagesse, rendaient la personne meilleure quand elle sortait. Et on parle de meurtre par inadvertance. D'accord ? Sinon, il n'y a pas de prison chez nous. La prison, tu rentres là-bas quelqu'un de moyen et ressort délinquant. Donc, tu n'as rien fait d'intelligent dans tout cela. Gezel. Mekatrek Baroch. Dans le Shulchan Aruch, on nous apprend que la première accusation des anges accusateurs, c'est pour les voleurs. Alors, Be'avon Gneva Ra'av Balaolam. Si vous voyez que l'argent se fait rare de plus en plus, que le monde va de plus en plus mal financièrement, les Chachamim nous disent Gezel Mevi Ra'av Laolam. Automatiquement, alors, c'est bizarre parce que dans les pays où il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup de vol. Mais c'est parce qu'il y a du vol que le pays est pauvre. Donc, plus le pays est honnête, et plus il sera florissant. D'où l'importance d'être très sévère au niveau du vol. Très, vraiment, avoir des lois qui soient très sévères. Il faut que les gens aient peur de voler. Ça ne doit pas servir d'exemple. Ça doit servir vraiment de situation, de fais attention, réfléchis bien avant de voler. L'honnêteté a une grande particularité. C'est comme dirait l'autre, prends pas ma gentillesse pour de la faiblesse. Quand tu es honnête, tu as l'impression qu'on prend pour de la faiblesse. L'honnêteté finit toujours par payer. Toujours. C'est juste une question de temps. Ve'alken chayavim kol ahorim la simlev. Donc le Chachamim nous dit que dans l'éducation, on doit mettre au centre même de l'éducation de nos enfants les akpid alehem shema yavru al isur gneva chas veshalom. C'est une chose sur laquelle on doit être très makpid. Comme une fois, une femme m'a appelé, elle m'a dit « Mon fils a pris un bonbon à la macolette. Qu'est-ce que je fais maintenant on arrive à la maison ?» Je lui dis « Vous vous rhabillez ?» Parce qu'elle m'a dit qu'elle était en pyjama maintenant. « Vous vous rhabillez, vous montrez que vous êtes très mécontente à votre enfant, vous le prenez par la main et vous l'emmenez et vous lui dites qu'il s'excuse d'avoir volé. » Elle m'a dit « Mais c'est un enfant de 6 ans. » Je lui dis « Justement, s'il l'a pris, c'est qu'il n'est pas conscient. 6 ans, c'est l'éducation. » Elle l'a fait et elle m'a remercié. L'enfant lui a dit à sa mère, je savais pas que c'est si grave. Parce qu'elle m'a dit, bon, écoutez, je rembourserai demain. Je dis, non. C'est pas le carambar qui a été volé ou le bonbon qui a été volé qui est grave. C'est qu'il soit permis de le faire. Faut pas laisser passer ça. Dans l'éducation, faut jamais laisser passer. Faut toujours montrer aux enfants la gravité que de voler, c'est pas possible. Parce qu'on prend très vite l'habitude de voler. Vous savez, c'est comment le vol. Au début, t'as mauvaise conscience. Après, tu dis, c'est pas grave. Après, tu dis, j'ai raison. C'est-à-dire que tu viens justifier à un tel point qu'il y a même des gens qui te disent dans la vie, alors tu fais quoi? Je vole. Mais non, ils te disent pas ça comme ça. Ils te disent, c'est pas très cachère. J'aime bien le côté, de l'autre côté. C'est pas très cachère ce que je fais. Bon, enfin, t'arnaques, quoi. Ouais. Bon, d'accord. Voler l'objet d'une personne. Maintenant, donc, ils demandent quelles sont les plusieurs formes de vol. Voler l'objet d'une personne est extrêmement grave. Dans la Torah, il doit rembourser pishtaim, pichamesh, ça dépendra, x2, x5, ça dépendra de l'objet volé. Ce qui est extraordinaire dans le judaïsme et la Torah, c'est qu'on va prendre aussi de l'état physique et psychologique du voleur. Vraiment incroyable. Pourquoi? Ben, si tu voles, par exemple, un mouton, c'est pas comme si tu as volé un bœuf. Pourquoi? Pourtant, qui vole un œuf, vole un bœuf. Tout le monde connaît. Il dit parce que le mouton, pour voler, il a dû le porter sur ses épaules. Donc, il faut le déduire. Fois deux. Mais le bœuf, par contre, il ne pouvait pas le porter. Il s'est pas porté tout seul. Donc, c'était facile. Il a pris le bœuf, il a couru avec. Donc, s'il s'est fatigué, quand même, on prend compte. J'aime bien la Torah. Moi. Je trouve ça génial. C'est comme le mec qui se fait attraper, il dit oh, écoutez, j'ai quand même passé une barrière de 5 mètres de haut. Il dit bon, écoute, allez, un an de moins de prison. Je trouve ça génial. Donc, voler, bien sûr, tout vol. Hachem Ishmor Verachem M. Asourim. Prendre, par exemple, des olives dans une boutique. Et j'ai bien connu ça avec ma mère à Éligey, la Belleville. Les gens venaient manger des olives. Donc, toute personne, oui, goûte de tout. Alors que c'est permis, vous avez le droit de goûter, mais à une condition, dans l'intention d'acheter. C'est-à-dire, je vais goûter des olives, mais je ne sais pas lesquelles sont bonnes à mon goût. Dans ce cas-là, j'ai le droit, si cela m'est permis par le propriétaire, de prendre une olive, de dire la bénédiction bien sûr dessus, et de la manger. Mais si tu n'as nullement l'intention, et que tu passes parce qu'on a le droit de goûter, et toi tu dis, ah, parce qu'on a le droit de goûter, je veux bien une olive, c'est du pur vol. Si tu n'as pas l'intention d'acheter, clair et net, j'ai pas l'intention d'acheter, pas comme celui qui se dit, est-ce que je prends des olives ou pas, et en goûtant, on dit, ouais, en fin de compte, elles sont très bonnes. Même le vendeur, on lui dit, écoutez, prenez celles-là, elles sont particulièrement salées, très sympathiques, tu goûtes, elles ne baissent pas rien.
Pour les parfums, alors, les
absolument, mais absolument, c'est pareil pour les parfums. Il y a des parfums d'essai, mais pourquoi ils sont les parfums d'essai? Si tu veux acheter, comment est ce parfum? Il te met le mec tout le matin, il a un parfum grand bas chez lui. Ça va, ouais, ça va, toi. Va d'ailleurs, c'est du vol. C'est très simple. Si tu veux savoir si une chose est du vol ou pas, passe du côté du propriétaire de l'objet que tu mets sur toi et tu lui demandes après s'il est d'accord. Imagine, c'est ta parfumerie. Et t'as un mec qui descend tous les matins se parfumer avec les échantillons que tu mets sur le comptoir pour vendre ta marchandise. Est-ce que tu accepterais? Donc qu'est-ce que tu vas lui dire? Achète ta mère. Ron, eh bien c'est pareil.
Ça dépend après. Si c'est un petit magasin, non, c'est des grands
enseignants. Ils sont basés sur ça. Quoi? Pas du tout. Personne n'est basé sur ça. Aucune boutique ne te permettra de venir te parfumer dans l'intention de ne pas acheter parce que tu avais besoin de sortir le parfum. Haine d'avoir casé. Ça n'existe pas ce que tu racontes. Grande ou petite boutique? Toi, tu viens de Suisse, toi. Ouais, c'est ça. Prendre donc des olives dans une boutique sans avoir l'intention de les acheter. Et même plus que ça, rentrer dans une boutique parce qu'il fait chaud et que là-bas, il y a le mazgan. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ils vendent des chaussures, tu rentres. Comme dit ma sœur. Et tu t'installes. Vous voulez me perdre de chaussures? Oui, écoutez, je regarde, rien du tout. Tu es en train de faire perdre du temps à la vendeuse qui perd un potentiel de s'adresser à un autre client ou une autre cliente. Et résultat des courses, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu profites du mazgan. Dans ce cas-là, tu dois dire honnêtement, excusez-moi, j'ai vraiment très chaud, est-ce que vous me permettez de rester sous le mazgan, le temps de te retrouver un peu mes esprits? C'est comme ça qu'on doit faire les choses. Mais si tu fais croire que tu viens pour acheter, alors qu'en réalité, tes intentions sont différentes, c'est pareil, mets-toi à la place du propriétaire et arrête de faire perdre du temps, surtout aux vendeurs ou aux vendeuses qui voient en toi un potentiel d'achat. Ça s'appelle du vol. Voleur. Dans le ciel, on dit tu es un voleur. Pourquoi? Parce que tu voles l'esprit de l'autre, la confiance de l'autre et le potentiel de l'autre. Parce qu'il va perdre du temps avec toi. Vous ne pouvez pas savoir combien c'est énervant quand tu sais qu'une personne, tu comprends qu'une personne, au bout de 10 minutes où tu lui présentes les articles, tu lui sors les choses et tu vois qu'elle n'avait vraiment pas l'intention d'acheter, tu lui en veux. Tu lui en veux parce que tu m'as fait perdre du temps, parce qu'il y avait une cliente à côté que j'aurais pu avoir. Et puis quelque part, dis-moi simplement que tu ne comptes pas acheter, comme ça je ne perds pas de temps. Quoi. Mon temps, c'est de l'argent. Et tu m'en fais perdre. Mais une fois de plus, il faut passer de celui, dans l'état de celui qui est volé pour se rendre compte. Tant que tu es de l'autre côté, tu dis « Oh, ça va !» Tu sais cette phrase où on bazarde beaucoup de dégâts avec « ça va ben, ». T'aimerais qu'on te le fasse, toi? Non, alors ne le fais pas. Ne pas acheter, donc, un objet volé. Même d'acheter un objet volé, c'est-à-dire quelqu'un a volé un tableau, une montre ou quoi que ce soit, il l'a volé, reseller, c'est interdit. On n'a pas le droit de posséder, donc, pourquoi? Mishum, écoutez bien, marzik bide ovrei avera. Tu maintiens la main du voleur en lui disant continue à voler, tu es un acheteur. En d'autres termes, s'il n'y avait pas de receleur, il n'y aurait pas de voleur, tout simplement. Plagiat, bien entendu, recopier des œuvres qui ont été écrites, sur lesquelles, vous allez voir, ou voler l'idée d'une personne qui, d'une invention déposée. Alors il y a quand même une différence à le pialacha. Est-ce que c'est déposé ou pas? Donc, on parle, toi et moi, d'une idée à développer. Moi, je vais développer cette idée. On en a discuté. Tu pars et tu fais mon idée. Est-ce que c'est du vol? Pas vraiment. Pourquoi? Je ne l'ai pas déposé. C'était une discussion. Toi, dans ce cas-là, tu vas me dire, attends, c'est parce que je t'ai répondu ça que tu es arrivé à ça. Donc on parle. Mais c'est par contre, l'idée, c'est la mienne et que je la dépose, c'est déposé, tu n'as pas le droit. Comme c'est marqué d'ailleurs, Kol Asruyot Shmurot. Quand il y a marqué tous les. Aidez-moi en français là. Kol Ashmurot, Kol Asruyot Shmurot.
Droit réservé.
Droit réservé, droit de réserve. Dans ce cas-là, tu ne peux pas le prendre. Même sur Internet, tu n'as pas le droit de l'utiliser sous prétexte que tu veux dire. Bon, bah lui, il n'a pas vu. Oui, mais Dieu, il voit. À partir du moment où c'est son image, son dessin, c'est lui qui l'a fait, il en est le propriétaire, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Okay? Aujourd'hui, avec ChatGPT, tu n'as plus besoin de rien du tout, il t'invente ce que tu veux sur place. Alors, dans la Torah, par contre, il faut arrêter un petit peu les délires. Je me rappelle être tombé sur une personne qui m'a beaucoup fait rire. Quand j'ai écrit un de mes livres, il m'a dit « Ouais, mais ce que vous avez dit, vous l'avez pris de tel livre. » J'ai dit « Oui, c'est marqué en bas la référence. » Au nom de la Torah, tu cites les Chachamim, tu n'as pas le droit d'inventer des choses. Et je marque au début du livre, mon livre est inspiré de plusieurs ouvrages, comme le Sefer Yetzira, comme le Sefer sur ceci et cela. Et la personne me dit, voilà, vous avez pris une page, ben oui, c'est la Torah, oui. La Torah, par contre, elle est référencée. Tu vois, je passe au courant, mais la Gemara va répéter ce qu'on dit les Tanaïm, hein, ils reprennent la Mishnah. Donc dans le judaïsme, c'est pas pareil. Mais par contre, le Rav, comment il s'appelle, Rabbi Yehuda, le Rav Yehuda, mon fils, il avait écrit un shoot sur le Likout Yosef. Le jour où il a voulu le sortir, le Rav Yitzhak Yosef lui a envoyé qu'il n'a pas le droit de sortir son livre. Pourquoi ? Parce qu'il a vendu le Likout Yosef à une personne qui lui a acheté pour une somme importante, ce qui fait qu'il en a l'exclusivité. Ce qui fait que son livre n'a pas pu sortir. Il lui a dit, c'est du vol. Étant donné que j'ai vendu mes droits de Likout Yosef à une personne, si tu veux écrire, il faut son autorisation. Donc tout ce que tu as écrit, tu ne peux pas le sortir. Donc il a laissé tomber.
Sauf s'il paye des...
Sauf s'il a un accord avec le propriétaire. D'accord ? Même au nom de la Torah, il faut faire attention. Mais par exemple, je prends Rashi, j'explique, je prends le Sefer Yetzirah, j'explique, qui a été écrit quand même juste par Avraham Avinu. Le mec, il me dit, ouais, t'as pas le droit. Stupide personnage. Alors vraiment stupide, parce que tous les livres qu'on a ici, alors, il y a bien Omer du Ravodia, alors tout ce qui marque, sachez une chose, c'est Degmara, des qui me riche le Machagronim, le Rabbi, il ramène une tonne de choses. Alors quoi, c'est plagiat, c'est le cachour. Mais par contre, si je prends un livre de quelqu'un et que je me l'approprie, comme une chanson qui a été écrite par quelqu'un, je prends ses paroles pour moi, s'il ne savait pas, il ne savait pas, encore une fois. Mais en général, ils savent.
C'est
plagiat, c'est du vol. Un vol qui passe complètement inaperçu, avec une espèce de « oh lui ». Vous connaissez ça ? C'est les filles qui se permettent de prendre l'héritage. Oula, qu'est-ce qu'il est en train de dire, le mec au chapeau, là, le sorcier, le manipulateur, comment on m'a appelé déjà ? On m'a donné plein de nombres. Gourou aussi, on l'a traité. Ouais. Bon, c'est un sur mille. Hein. Faut toujours. C'est bien, quelque part, à ce qui paraît. Même Moshe Rabbeinu, il a eu 250 face à lui qui l'ont traité d'imposteur. Donc ça va, je suis bien, moi. C'est l'héritage. Les filles n'ont pas le droit à l'héritage. Comme l'a précisé le Rabbi Yosef, une fille qui prend un héritage est une voleuse. C'est Alakha, c'est Sinaï, par Sinaï. Alors le père doit faire une donation de son vivant ou en tant que cadeau ou à ses frères, demandant aux frères de donner une partie de leur héritage à leur sœur. Mais que la sœur prenne des avocats et qu'elle aille vider les comptes du père et ainsi de suite, c'est une pure voleuse. Kipchuto. Même si elle dit, moi je me suis occupé de papa plus que toi, donc ça me revient, c'est une voleuse. Demandez à vos rabbanim, toutes tendances confondues vous le diront. Sauf s'il y a des accords avec les parents et que les parents de leur vivant ou même de leur mort donne en donation, c'est-à-dire en tant que cadeau. Aval Yerusha, Rak, les Banim. Banim, les garçons héritent, et le Bechor, l'aîné, sur l'argent physique, c'est-à-dire, par exemple, il avait 200 000 shekels, il a une double part dans l'héritage, parce qu'il est Bechor. Je parle des lois de la Torah, après, ce que vous faites ce que vous voulez, s'il y a des non-juifs qui regardent le Coran, dire n'importe quoi, celui-là, tout ce que tu veux. Moi, je vous parle à pied à l'achat, vérifiez, et vous verrez ce
c'est
que je vous dis. Hein? Alors, c'est les fameuses filles de Tselophrade. Il n'y a pas de garçons, dans ce cas-là, elles pourront hériter. C'est une très bonne question qui vient. J'ai fait un cours sur l'héritage, là-bas je donne toutes les références. Tapez héritage Rav Twitou et vous aurez toutes les références. Le divorce non conforme à la halakha. Un des points qui est extrêmement grave, c'est que de tout temps, une kala qui se mariait, à partir du moment où elle divorce, elle retourne chez ses parents. Aujourd'hui, c'est elle qui prend la maison, elle ruine le mari. Des lois sont terriblement dans l'avantage, comme aux États-Unis, en Israël, pour la femme, ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il y a un séquer extraordinaire qui a été fait à Tel Aviv. Vous savez qu'il y a énormément de filles de plus de 30 ans qui ne sont pas mariées en Israël. Il y en a beaucoup, comme en France, comme ailleurs. Hein. Et quand on pose la question aujourd'hui aux hommes, ils ont peur du mariage parce que, bémet, une fois que tu es marié et qu'elle a un gosse, c'est une balle dans la tête. Si ça ne va pas, tu es cuit. C'est-à-dire que l'enfant qui est un cadeau du ciel devient un boulet parce que ça te rattache à une situation où si tu as par un diplôme supérieur, tu vas payer extrêmement cher et ça devient presque, je dirais, des calculs pécuniers. Ça ne veut pas dire qu'on doit laisser une femme, si on divorce d'elle avec des enfants, on doit l'abandonner. Chas v'shalom, qu'il y ait un accord, mais que cet accord ne vient pas prendre la moitié de la paye de l'homme alors qu'elle, elle paye. En plus, la garde est alternée, mais c'est des trucs de malades aujourd'hui qui te font peur de te marier. Dans la Torah, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a ce qu'on appelle le strum de la Ktouba, s'il n'y a pas mis Kartaout. C'est-à-dire même ça, c'est les Dayanim qui décident. Ensuite, il y a un accord qu'on appelle Eskem Girushin. Ça veut dire que le mari et la femme doivent rentrer dans un protocole d'accord avec la bracha du mari. Mais aujourd'hui, l'une des raisons pour laquelle il y a beaucoup de tromperies aux États-Unis, je ne vous dis pas ce que je pense, je dis ce que les gens m'ont dit. Je dis, mais si ta femme, elle fait autant de choses et qu'elle aurait carrément un amant selon ton détective privé, pourquoi tu restes avec? Il me dit, parce que j'ai 15 millions de dollars, et si je divorce, elle prend 7 millions de dollars. Alpi alacha, c'est du pur gezel. En davar kazé. C'est l'odina de malchuta dina. La ktouba le prescrit. La Torah nous l'enseigne. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce qu'a acquis une femme, acquis l'homme. Mais aujourd'hui, on veut l'égalité des sexes, on veut l'égalité de tout. Ouais, pour qui tu te prends? Ah, tu vois, les religieux, c'est pour ça que j'aime pas la Torah. Baba, ici, c'est un cours de Torah. Zelo nachon, et ça n'apporte pas ses bénédictions. Moi, je vous dis franchement, un jour, quelqu'un m'a montré quelque chose qui m'a fait très mal au cœur. Sa femme a obtenu de lui une pension énorme de 15 000 shekels. 15 000 shekels. Sous prétexte qu'elle gagnait donc au-dessus de cela, elle a réussi à lui avoir 15 000 shekels. C'est quand même pas mal. 3 000 shekels par enfant. J'ai une autre personne, d'ailleurs, qui a fait de la prison parce qu'il n'a pas payé et qu'il ne voulait pas. Et il me montre une vidéo. Il dit, voilà, j'ai filmé mon ex. Et avec l'argent que je lui envoie, elle sort avec des mecs au restaurant. Elle vit sa vie, elle va en boîte. Pourquoi je dois payer ça? Alors, bien entendu, pour des gens chiloniques qui ont un petit poids dans la tête, elle fait ce qu'elle veut de son argent, t'avais qu'à pas, je sais pas quoi. Il y a aussi Ogmat Nefesh. Alors, bien sûr, quand tu payes une pension, tu vas pas dire non plus qu'est-ce qu'elle va faire avec cet argent, elle fait ce qu'elle veut. Mais l'argent que tu donnes, il est pour qui? Pour les enfants. Et toi, le Hamor, tu payes pour madame qui t'a pourri ta vie. Et en plus de ça, non, si c'est le cas, bien sûr, ça peut être l'homme qui pourrit la vie de la femme. Mais tu es ce mec qui, comme on dit, tu tiens la chandelle. Tu lui payes le restaurant avec son mec. Mais attends, mais où tu vas? Cet argent, normalement, si tu payes de telles pensions, il devrait y avoir un apotropus, c'est-à-dire un tuteur qui vérifie que cet argent n'est utilisé que pour les enfants. À la limite, ce serait justice. À la limite. Mais pas du tout. C'est elle qui en profite. Les enfants, ils n'ont rien. Elle sort en boîte, elle va à droite, elle va à gauche, elle se paye des voyages. Et les enfants, choum d'avar. Zelon achon. Ça, c'est du vol manifeste, mais malheureusement couvert par des lois débiles qu'on appelle anglo-turques et maintenant américaines, parce qu'il manquait encore la sauce américaine ici, parce que l'État d'Israël, ils ont des lois qui sont anglaises, mandat anglais, turc, les ottomanimes, et maintenant américaines. C'est-à-dire quand tu rentres dans les lois israéliennes, tu rentres dans une espèce de salade où tu ressors chèvre. Chèvre. Bémet. Hein? Emprunter un stylo ou un livre où il n'y a pas de nom, c'est permis. Ça veut dire quoi? Stam, il y a des stylos sur l'hôtel, c'est sur le DAPAC, tu prends un stylo, tu veux écrire. C'est permis, c'est fait pour. Mais tu viens dans un bureau, tu prends un stylo, dans ce bureau, c'est du vol. Tu prends un livre de Torah sur lequel il y a un nom à l'intérieur, comme il est marqué dans Tana Devel Yahou à la fin du livre, ou alors dans Mintrat Yehuda à la fin du livre, qu'il est impératif de marquer son nom dans les livres pour ne pas qu'il y ait de disputes. Non, c'est mon nom, c'est bien. Ben, regarde. Si tu ouvres un livre et qu'il y a le nom d'une personne, tu n'as pas le droit de l'utiliser sans sa permission, même si c'est pour vérifier une halakha. Même si c'est pour étudier la Torah, s'il y a le nom de cette personne, il faut son autorisation.
C'est une histoire.
Hein?
C'est une histoire.
Alors, il appartient à ses enfants. Tu as posé une question, je te réponds. Il appartient à ses enfants. Dans ce cas-là, si c'est à la synagogue, ils vont le gabaye. Le gabaye donnera la réponse. C'est un des rôles des gabayes de savoir qui que quoi dans lequel dans la synagogue. Je finis parce que je voudrais avancer. Payer hors de la date prévue. Alors ça, c'est un vol par contre qui est devenu complètement permis. Les gens savent tous pleurer pour s'emprunter, mais alors pour rendre. Bizarrement, le téléphone marche moins. Je ne sais pas pourquoi. Ils savent t'appeler 1000 fois pour un emprunt. Allez, je t'en prie, Michel. Oh, tu me connais? Ouais. Bon, ok, je te prête. Quand tu me les rembourses, lundi prochain. Peut-être même avant. Le problème, c'est qu'il ne t'a pas dit de quelle année. Il t'a dit lundi, mais il ne t'a pas dit quelle année. C'est pour ça qu'Alpi Alakha, tu es obligé d'écrire un contrat. En ce jour, je te prête, tac, tac, tac. tu devras me le rendre dans les mêmes conditions, ta ta ta, à quelle heure et à quelle date. Et si cette personne outrage la date, c'est un voleur. Mais et s'il ne peut pas rembourser le pauvre? Il attendait de l'argent et il n'a pas pu. Pas de problème. Allô? Voilà, je t'appelle. Je viens d'apprendre à l'instant que l'argent que je devais recevoir, je ne l'aurai pas avant lundi. Ce sera juste après. Je te demande pardon. Est-ce que tu veux qu'on s'arrange de façon différente? Est-ce que tu me permets une rallonge? C'est honnête. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Oula. Trois jours plus tard, il vient le voir. Le lendemain, il vient le voir. Mardi. Gazlan. Tu es un voleur. Ataganav, pas shoot meod. Puisque ça encore, la Gemara nous apprend. Avant, on payait les ouvriers à la journée. Le soleil s'est couché, tu l'as payé après. Voleur, tu ne l'as pas payé en son temps. Ne pas payer en son temps une personne, c'est du vol. S'emprunter, sans rembourser, on va l'étudier dans ma série Tavot au nom de du Teilim, ça s'appelle rachat. Tu t'empruntes sans rembourser, c'est assour. Moi, je dis simplement une chose à toutes les personnes qui savent s'emprunter de l'argent. Vous savez pleurer, vous savez expliquer, vous savez prendre le temps pour parler à la personne pour qu'il vous prête cet argent, et il y a l'amabilité d'avoir le même comportement si vous n'avez pas remboursé. Ça aussi, ça fait du bien d'avoir des gens honnêtes, parce que ça permettra de reprêter à cette personne, parce qu'elle ne fuit pas. Une fois, elle m'a dit « Ah, je lui réponds, j'ai pas de quoi le rembourser. » T'as pas honte? Tu n'as pas honte? Là, au lieu de me parler, va travailler. Et avec cet argent, tu rembourses. Quand il t'a prêté cet argent, s'il avait su que tu ne remboursais pas, il ne t'aurait jamais prêté. 10 000 shekels, il ne va pas te prêter 10. Il va dire, voilà, prends 1 000 shekels cadeau, mais je ne te prête pas 1 000, parce que 10 000, tu ne vas pas me les rendre. Mais encore une fois, il n'y a que celui qui prête, qui comprend mon langage, qui va dire, ouais, tandis que l'autre, tu vas dire, ah ouais, celui-là, il part, mais comment on fait quand on n'a pas? Il ne fallait pas t'emprunter, baba. T'aimerais, toi, qu'on t'emprunte de l'argent et qu'on te dise, en fin de compte, je ne peux pas te le rendre? Comme une fois, j'avais prêté de l'argent à quelqu'un il y a très longtemps, il m'a dit, ça va, tu vas pas mourir. Je lui dis, toi, oui. Donc, c'est une...
Est-ce que comme l'adage de dire, on est trop riche?
Hein?
Est-ce que dans la Torah, on suit l'adage selon lequel on ne prête qu'aux riches?
Ah, oui. Non, on ne... Oui. Il y a marqué, Dieu donne de la chokhma à Kochacham et il ne prête qu'aux riches. Oui, parce qu'il faut aussi des garanties. Et c'est pour ça qu'en hébreu, il y a la notion du mashkon. C'est-à-dire que tu as le devoir aussi de prendre des garanties pour des sommes d'argent importantes. À savoir que s'il ne peut pas te payer, tu as un mashkon, c'est-à-dire un diamant, un bijou, quelque chose en contrepartie, pour ne pas, un gage, pour ne pas que cette personne se retrouve en porte-à-faux vis-à-vis d'Hachem. Dieu déteste la malhonnêteté. Dieu a ses lois à lui qui peuvent être, dans les temps modernes, déphaser beaucoup de personnes, mais quoi qu'il advienne, je rappelle qu'avant les temps modernes, de tout temps, même il y a 2-3 siècles en arrière, quand la femme divorçait, elle retournait chez ses parents, et c'était comme ça que ça se passait, comme le demande la halakha. D'accord? Mais les temps ont changé, bien changé, et on voit les résultats. Tout le monde divorce, personne n'est heureux, et la vie est devenue une catastrophe, même s'il y a des exceptions à la règle. Ken?
Est-ce que la convoitise, c'est une forme de vol?
Vadaï, l'otachmod, vadaï. J'ai fait un cours sur ça, la convoitise s'appelle beauté volée, à regarder et à méditer. De regarder une femme, ce n'est pas interdit à Alpéalacha. Ce qui est interdit, c'est de l'éid bonen, regarder son maquillage, ses yeux, si elle est belle, si elle n'est pas belle, si son gel est trop bordeaux ou pas bordeaux. Ça, c'est strictement interdit. Mais Stam, regardez, c'est pas interdit. C'est-à-dire que tu parles avec une femme, tu regardes, en baya. L'id bonen ba, c'est-à-dire la contempler, ça, c'est interdit. Et qu'est-ce que ça fait? Alpi Kabbalah, quand tu regardes une femme pour sa beauté, tu lui voles de son énergie. Ça s'appelle beauté volée. Les références sont le Zohar et le Soda Hashmal, que je vous invite à le voir, s'appelle beauté volée, un chiour magnifique que j'ai fait quand j'avais une barbe noire. Là, elle est blanche, demain sera rousse. Demandez à ce capitaine de bateau. Donc, une chose sur laquelle faites très attention si vous voulez de la réussite et du mazal dans vos vies. Baruch Omer Verose, Baruch Gozer Umkayem, Baruch Ose Bereshit. Tu veux de la bracha? Ce que tu dis, fais-le. Quand tu dis à une personne, ne t'inquiète pas, je t'embauche ce soir, tu l'as dit, même si t'as pas signé, même si ceci et cela, sache que cette personne, quand elle rentre, elle fait la fête. Et en fin de compte, oui, mais en fin de compte, tu sais, j'ai réfléchi. Non, tu as trouvé quelqu'un qui te correspond plus et tu as parlé pour rien dire. Donc fais très attention avant de promettre, de toujours prendre une distance en disant, laissez-moi jusqu'à ce soir pour réfléchir. Toujours prendre du temps. Jamais vous verrez un homme tzaddik qui ferait une chose pareille de vendre des paroles aussi facilement parce que tu achètes la confiance de l'un et tu le déçois, tu l'emmènes de l'autre côté. Un des interdits qui est des plus graves, et dont on se rend compte le moins, et qui nous fait le plus payer des souffrances dans ce monde, pour ceux qui veulent l'entendre, voler le cœur d'une personne pour ses besoins personnels. c'est-à-dire ses intérêts, ou l'emmener dans la chambre, si vous avez compris, t'es trop belle, ou est-ce que t'étais pendant toutes ces années, pour moi t'es mon âme sœur, il la met en confiance, à l'image de Masechet, le livre de la jungle, et confiance, crois en moi, que je puisse profiter de toi. En d'autres termes, toutes ces personnes qui volent le cœur d'autrui, pour des intérêts personnels, donc ce qu'on appelle un match de l'hypocrisie de la pensée, ça s'appelle Gezel Da'at, voler la pensée de l'autre, pour prendre son poste. Par exemple, il va lui dire « Mais tu te laisses trop faire, tu devrais te rebeller », la personne va l'écouter, en fin de compte, il se fait virer parce que lui voulait sa place. Toutes ces choses-là, voler sa confiance, sont considérées comme étant des vols extrêmement graves vis-à-vis d'Hachem, et ça se paye avec des larmes de sang par la suite. D'accord ? Comme par exemple, je vous pose une question... un jour, j'ai arrêté une personne pendant les vacances d'été et je lui ai dit « Pourquoi tu fais ça ?» Et bon, il m'a répondu ce qu'il m'a répondu. Et je lui ai dit « Si cette fille, c'était ta fille, t'aimerais qu'un garçon vienne lui voler sa virginité ?» Il m'a dit « Je le tuerais. » Genre, pourquoi tu fais ça vis-à-vis d'elle ? Il m'a dit « Vous avez raison. » Il est parti. Fais pas autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. C'est vrai ? Je parle pas de toutes ces femmes et ces hommes qui sont devenus animaux aujourd'hui, qui voient l'acte comme étant... un plaisir comme d'aller à la foire du trône, ben viens, on va ensemble dans la chambre. Je ne parle pas de ça. Je parle de ces personnes qui vont être faibles à un moment de leur vie parce qu'ils veulent se marier, alors ils se disent bon, j'ai peur de rater. Ils ne se rendent pas compte que, au contraire, plus tu te préserves et plus tu auras des chances de conclure avec cette personne. Parce qu'une fois qu'il a goûté la marchandise, ben très souvent il te dit écoute, j'ai réfléchi, c'est trop bien pour moi, tout le monde connaît. C'est scène théâtrale. Pour finir, voler le respect des parents. Voler le respect dû aux personnes âgées, aux personnes importantes et aux personnes riches. C'est un sujet pour lui-même que j'ai déjà développé dans d'autres cours. On se doit de respecter des personnes riches qui, bien entendu, riches, comme a dit le Rav Ovadia Yosef, qui donnent de leur argent à la Torah et aux mitzvot. Sinon, tu n'as aucun respect à leur devoir parce qu'ils sont riches. On doit respecter tout le monde, riche comme pauvre. C'est pas ce que je veux dire. Mais une personne qui est riche et qui soutient la Torah, il a un tel mérite qu'on se doit de se lever devant lui. C'est-à-dire, c'est dans ce cas que c'est dit. Et là, le dernier que je vous ai noté, écoutez bien, parce que celui-là, il est très journalier. L'interdiction de voler le bonheur d'une personne, de le faire passer du sourire à la tristesse. Ne donne jamais de mauvaises nouvelles. Ne viens jamais retirer le sourire à une personne. Tu lui as volé son droit au bonheur, la joie de vivre. Au contraire, comme l'enseigne Rabbi Nachman de Breslev, il n'y a pas plus merveilleux au monde que de donner le sourire au plus de personnes possible. Sois toujours le centre du bonheur des gens. Ne sois jamais, jamais... Comme des métiers, par exemple, que je ne comprends même pas qu'on puisse faire, huissier. Bonjour, on est venu vous prendre tout ce que vous avez. Oh, super. Ou alors les corbeaux, qu'on appelle les corbeaux. Ce sont ceux qui viennent annoncer la mort des proches. Donc, il faut bien que quelqu'un le fasse. Bah oui, mais ne sois pas celui qui lève la main pour le faire. Voilà ce que cela veut dire. Ou alors, ceux qui mettent des PV. Moi, je dis souvent, vous savez, quand la police t'arrête pour une infraction quelconque, ils font leur travail. Et heureusement qu'il y a la police, parce que sinon, on plongeait dans un monde de fous. Où est-ce qu'un policier pourrait-il devenir... voleur dans son cas, c'est quand il prend le plaisir de te mettre cette amende.
Le sourire.
Ouais, le fameux sourire. Le feux sourire de Fantomas. Que tu fasses ton métier, c'est une chose, mais montre-moi de la compassion par rapport au fait que là, tu es en train de me prendre de l'argent, des points, ça va me coûter encore un permis. Parce qu'une fois que tu refais ton permis, ça va être pas. Non, inscription de 150 shekels, et sur place, tu payes encore 300 shekels. Tu payes ta race, ça veut dire que tant qu'ils peuvent te taxer sur la route, ils vont te taxer, c'est-à-dire que c'est l'amende, le procès, le bidule, le chouette, c'est du non-stop. Et à part ça, tu renouvelles ton permis tous les 5 ans. Donc tu repayes ton permis, tu ne sais pas pourquoi. Voilà un petit peu la situation.
Il y a aussi quand on dit à quelqu'un, ah, tu t'es fait arnaquer, tu aurais pu payer moins cher.
Exactement, ah oui, alors ça par exemple, quelqu'un qui a acheté quelque chose, et de lui dire, dommage tu l'as acheté, moi j'aurais pu t'avoir pour... C'est dommage. Que toutes ces choses-là, c'est retirer de la joie à une personne. Et je finirai avec cette fameuse phrase que tout le monde connaît. Tout argent mal acquis ne profite jamais. C'est la conclusion de toutes nos halakhot. Baruch Adonai l'olam. Amen.
Par exemple, d'écouter la musique en streaming, par exemple.
C'est quoi, streaming?
C'est des sites où il y a des sites et tout.
Mais c'est où? Je connais pas, je peux pas te répondre. Mais ce que je sais, c'est qu'à l'époque, ils vendaient des disques sur lesquels ils sortaient les... Ça, c'est assourd d'acheter. C'est du vol. Okay. Colle tout.